Donc Thierry Séval, je viens de Seine-et-Marne, de Hautefeuille, donc de l'AEDE. Je suis aumônier pour personnes handicapées mentales là-bas. Et comme je fais une formation au Binnenberg, je profite chaque fois de mon passage pour m'arrêter dans une église ou une autre, profiter un peu de la communion fraternelle et apporter aussi le message. Donc c'est intéressant aujourd'hui qu'il y ait deux églises qui se réunissent pour le culte, parce que mon thème est plutôt justement sur... Mon premier exemple sur en fait une église qui s'est divisée, donc le contraire, une église qui a vécu, une église qui a vécu un conflit et une division. Alors c'est pas l'église mennonite, hein, je pense que ça n'existe pas dans les églises mennonites. Mais donc ça veut surtout dire, c'est pas la peine de chercher de quelle église je parle. Je pense que vous ne la connaissez pas. C'était une église grande, c'était une église qui était stable en apparence, une église ancienne qui donnait l'impression d'avoir des racines profondes. Et du jour au lendemain, sans que les gens voient rien venir, tous les responsables de l'église ont quitté l'église pour fonder une nouvelle église un peu plus loin. Il y avait un problème depuis des années, un peu larvé, entre le président du conseil d'un côté et puis le pasteur et les anciens de l'autre. Le président a démissionné et puis le pasteur a démissionné aussi pour crever l'abcès. Les anciens ont démissionné, sont partis avec le pasteur et ont annoncé que voilà, d'ici fin août, l'église s'arrêterait. Bon, les gens qui sont restés ont dit, ben, c'est parce qu'ils ont dit que ça va s'arrêter qu'on est obligé. Donc ils ont continué à essayer de faire vivre l'église. Et ce qui est amusant, c'est que quelques mois plus tard, ceux qui sont partis pour la nouvelle église ont écrit à l'ancien en demandant qu'on leur fasse un papier comme quoi ils sont officiellement un essaimage pour leur faciliter un peu quelques démarches administratives. J'ai trouvé ça un peu ironique. Autre exemple, dans un groupe de quartier dans l'église où j'étais pasteur pendant 10 ans à Montpellier, on a abordé la question des conflits, la question du pardon un peu sous toutes les formes. Lorsque j'ai regardé des fois en arrière, j'ai eu l'impression que dans ce groupe, on n'a fait que parler du pardon pendant les 10 ans où j'y ai été, et pas quasiment sous toutes ces formes. On a abordé toutes les questions un peu pointues. Comment arriver à pardonner un parent, par exemple, contre qui on a un ressentiment mais qui est maintenant décédé, si on ne peut plus lui demander pardon? Si la personne nous demande pardon à nous, mais ne demande pas pardon à Dieu, est-ce qu'elle est pardonnée quand même? Donc voilà, on était vraiment dans des fois des choses très très pointues. Et le jour où il y a eu dans ce groupe une petite difficulté, ils ont été tous incapables du moindre premier pas. Un peut-être pour aller rencontrer l'autre, un peut-être pour demander pardon ou quoi que ce soit. Vraiment, c'était effarant de se dire, c'est un groupe où on a tellement parlé du pardon. Les anciens sont beaucoup impliqués à accompagner le groupe et malgré tout, ben, c'était impossible de faire la moindre première démarche. Et on pourrait, je pense, raconter beaucoup d'autres histoires concernant d'autres églises, d'autres groupes et toujours ces conflits qui surgissent, cette incapacité à se parler, à se pardonner, à se réconcilier. Et on arrive toujours à rationaliser. J'ai entendu des pasteurs qui disaient, ben, que le nombre d'églises croisse par multiplication ou croisse par division, c'est pas grave, le nombre d'églises grandit quand même. Donc une arithmétique ecclésiale assez compliquée, hein, multiplication et division, c'est en fait la même chose. D'autres ont souligné que Dieu avait fait sortir un bien d'un mal, puisque maintenant le témoignage dans la ville était plus important avec deux églises qui témoignaient. Donc tout finit bien. Et bien sûr, on va toujours revenir à l'exemple aussi de Paul et Barnabas. Leur conflit dans le livre des Actes autour de Marc, est-ce qu'il fallait le prendre ou pas, et Paul et Barnabas qui se séparent. Et pourtant, ben, on a quand même l'impression que les deux sont plutôt presque parfaits, hein, marchent presque sur l'eau, et en définitive, voilà, conflit aussi, et là aussi, deux champs missionnaires qui sont ouverts, et donc, en définitive, c'est plutôt quelque chose de bien, plus de gens évangélisés grâce au conflit entre Barnabas et Paul. Mais j'ai l'impression des fois aussi qu'en faisant comme ça, on se justifie à bon compte et que les conflits, les divisions et le non-pardon ne sont pas des choses aussi anodines aux yeux de Dieu. Alors je crois qu'on est sauvé par grâce, je crois aussi à l'assurance du salut, mais on peut se dire dans ce cas-là effectivement que tout ce qu'on fait une fois converti, rien ne peut être grave. Et dans la théologie qui nous évite des fois aussi bien des tracas, parce que parfois, si on devait demander pardon après certains conflits, ou accorder parfois le pardon, on serait bien ennuyé. Et c'est vrai que parfois, après des divisions d'église, les deux églises se portent bien et grandissent, Et on peut dire, c'est vrai que Dieu a fait sortir un bien d'un mal. Mais Joseph, lorsqu'il dit que Dieu a fait sortir un bien d'un mal, ne dit pas que ce que ses frères ont fait était bien en définitive ou que ce n'était pas grave. Il dit bien, c'était un mal qu'ils lui ont fait. La manière dont Dieu a conduit l'histoire par la suite n'excuse pas les actes des uns et des autres. Il ne faut pas mélanger le plan de Dieu, les apparences et les choix que nous pouvons faire. David, lorsqu'il est poursuivi par Saül, par deux fois à l'occasion de le tuer. Les soldats qui sont là avec lui voient ça comme une opportunité donnée par Dieu. Et David sait bien que Dieu l'a choisi pour être le successeur de Saül. Et on lui dit, bah, Dieu l'a mis à ta portée, donc tu peux le tuer. Tu sais que tu dois être roi. Les signes, l'opportunité montrent bien sûr qu'il y a un signe de Dieu, qu'il faut que tu tues Saül. Mais David ne laisse pas comme ça les apparences façonner ses valeurs morales. Elles ne dépendent pas des circonstances. Il sait que ce n'est pas à lui de prendre la vie d'un homme choisi par Dieu et il attend simplement que Dieu conduise les choses. Le fait que dans un conflit les histoires se terminent bien ou se terminent mal, que les circonstances semblent indiquer que, n'est pas un signe de ce que nous pouvons faire ou pas faire, ou de ce qui est bien ou ce qui est mal. Prenons donc au thème du conflit et du pardon et commençons par le pardon. Il y a quelques passages bibliques qui en parlent de façon assez générale, qui appellent simplement à pardonner, ne disent pas beaucoup plus. Par exemple, Éphésiens 4, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Colossiens 3, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc deux appels assez généraux à pardonner, mais au moins déjà le lien avec le fait que Dieu, lui, nous a pardonné en Jésus-Christ. D'autres textes insistent un peu plus. Luc 17, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. S'il a péché contre toi sept fois dans un jour, et que sept fois il revienne à toi en disant « je me repens », tu lui pardonneras. Un commandement de Jésus qui nous appelle à être disposés à pardonner avec persévérance. D'autres passages lient aussi pardon de Dieu et notre pardon, sans toujours bien préciser comment. Le plus connu, c'est notre Père, hein, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensaient. Qu'est-ce que ça signifie comme ? Est-ce que ça veut dire autant que ? Mais est-ce que notre besoin de pardon est quand même pas beaucoup plus grand que celui qu'on doit accorder ? Est-ce que ça veut dire que l'un est la conséquence de l'autre ? Mais lequel ? D'autres passages vont plus loin. Matthieu 6. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Marc 11. Lorsque vous êtes debout faisant vos prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et le texte principal qu'on lira ce matin qui est en Matthieu 18, à partir du verset 21. Donc Matthieu 18 à partir du verset 21. Pierre s'approche de Jésus et lui demande « Seigneur, quand mon frère me fait du mal, je devrais lui pardonner combien de fois ? Jusqu'à sept fois ?» Jésus lui répond « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 77 fois cette fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à ceci. Un roi veut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commence. » On lui amène un serviteur qui lui doit des millions de pièces d'argent. Le serviteur ne peut pas débourser. Alors le roi donne cet ordre. Vendez-le comme esclave. Vendez aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il a. Et qu'il paye sa dette. Mais le serviteur se met à genoux devant le maître et lui dit « Sois patient avec moi et je te rembourserai tout. » Le maître est plein de pitié pour son serviteur. Il supprime sa dette et le laisse partir. Le serviteur sort, il rencontre un de ses camarades de travail qui lui doit 100 pièces d'argent. Le serviteur le saisit, lui serre le cou et lui dit « Rembourse-moi ce que tu me dois. » Son camarade se jette à ses pieds le suppliant en disant « Sois patient avec moi, je te rembourserai. » Mais le serviteur refuse, fait jeter son camarade en prison en attendant qu'il rembourse sa dette. Les autres serviteurs voient ce qui est arrivé, ils sont vraiment tristes, ils vont tout raconter à leur maître. Alors le maître fait venir le serviteur et lui dit « Mauvais serviteur, j'ai supprimé toute ta dette parce que tu m'as supplié. Toi aussi, tu devais avoir pitié de ton camarade comme j'ai eu pitié de toi. » Le maître est en colère. Il envoie le serviteur en prison pour le punir. Le serviteur reste là en attendant qu'il rembourse toute sa dette. Et Jésus ajoute « Mon Père qui est dans les cieux vous fera la même chose si chacun de vous ne pardonne pas à ses frères et sœurs de tout son cœur. » C'est un texte qui me gêne un peu parce qu'il colle pas avec ma théologie. Je sais bien, comme dit Éphésiens 2, que c'est par grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi, que ça ne vient pas de nous, que c'est un don de Dieu, que c'est par le fruit des œuvres qu'on aurait accompli, que personne ne peut donc s'en vanter. Si le pardon que je reçois dépend du pardon que j'accorde, il n'est plus gratuit, il dépend bien de ce que j'ai accompli, ou pas. Alors bien sûr, il ne faut pas pousser non plus le sens du mot « œuvre » trop loin. Les œuvres, dont il est question, ce sont les œuvres de la loi, hein, les sacrifices, les choses qu'on faisait, qui essayent de faire cumuler les choses pour faire pencher la balance divine. Et aussi, on peut noter que dans la parabole, le maître a bien remis la dette au début, au serviteur. C'est bien la grâce qui est là, c'est bien la grâce qui accorde le pardon. Elle n'a pas dépendu de ce qu'il a fait ou pas. Mais c'est par la suite, par son ingratitude, qui fait que le maître revient sur son engagement. Je ne suis pas le seul, bien sûr, qui est gêné par ce texte, sa théologie. Pour ceux qui ont les Bibles avec les notes Scofield, hein, c'est une Bible un peu ancienne, Scofield disait, c'est là, on est encore sous le régime de la loi. Sous la loi, on est pardonné, sinon on pardonne aussi. Sous la grâce, on pardonne, même si on pardonne. Enfin, on est pardonné, même si on ne pardonne pas. Ça peut paraître surprenant. Pour d'autres, la personne, puisque la personne ne sortira pas avant d'avoir tout payé, ça veut dire qu'elle sortira un jour. Donc ça ne concerne pas vraiment notre salut, ça ne concerne pas vraiment la destinée éternelle. Je n'ai pas compris de quoi la personne parlait dans son commentaire. Un peu l'impression d'un purgatoire évangélique, comme ça. La réponse traditionnelle, souvent, c'est de dire qu'en fait, par ces textes, Dieu nous avertit pour qu'on agisse avec sérieux, mais qu'en définitive, rien ne peut nous arriver. Dieu fait semblant, entre guillemets, qu'il pourrait nous retirer son pardon, mais il ne le fera pas. Mais je trouve que toutes ces réponses ne donnent pas vraiment justice, ne rendent pas justice à ces textes, et les forcent à rentrer un peu dans un cadre préconçu. S'il y aurait un seul texte, on pourrait hésiter. Est-ce que ce texte, voilà, comment est-ce qu'on l'interprète, etc. Mais il y a quand même plusieurs textes qui vont dans ce même sens, de dire que notre pardon, enfin le pardon qu'on reçoit et le pardon qu'on accorde, sont quelque part liés. J'ai commencé par deux exemples négatifs. J'aurais quand même aussi en prendre un positif. Il y a eu, il n'y a pas très très longtemps, la deuxième convention nationale du CNEF, hein, du Conseil National des Évangéliques de France. Il a parfois entendu dire, ben voilà, une division de plus dans le protestantisme, les évangéliques qui se séparent, mais dans le protestantisme, mais j'ai l'impression que de toute façon le protestantisme n'a jamais été uni. Et quand on regarde l'histoire du CNEF, on voit quand même que c'est d'abord l'histoire d'une réconciliation. Sans y être moi-même impliqué, j'étais à côté, assez près de quelqu'un qui vraiment était à l'origine des démarches qui ont abouti au CNEF. Et c'est d'abord vraiment autour de la reconnaissance des jugements qui ont été portés d'une union d'église sur une autre, des demandes de pardon réciproques qui ont été faites entre unions d'église, que la démarche qui a abouti au CNEF a pu exister. Et plusieurs ont vraiment dit que s'il n'y avait pas eu l'esprit qui avait agi à derrière, jamais ça aurait été possible. Que quelqu'un, membre de la FEF, vienne, président de la FEF, même, vienne rencontrer les églises pentecôtistes et dit « Voilà, on a porté beaucoup de jugements contre vous, beaucoup de paroles méchantes, etc. Et je vous demande pardon, si on connaît un peu la fève, si on connaît un peu les églises pentecôtistes, on se dit, voilà, il y a eu quand même quelque chose là de... Si l'esprit n'était pas derrière pour un petit coup de pied aux fesses, je pense que c'est une démarche qui aurait été difficile et capricieuse en sa mère. Les pentecôtistes disent, d'accord, merci, on entend ça, on va voir ce qu'on en fait. Et plus tard, ils sont venus accorder le pardon. Et plus tard, ils sont devenus eux-mêmes demander pardon. Je trouve que là, il y a un bel exemple aussi de positif, comme quoi les évangéliques savent aussi parfois aller vers des démarches de réconciliation. Et quel que soit le regard qu'on porte sur le CNEF, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, etc., ce qui est sûr, c'est qu'il y a là un exemple de pardon demandé, accordé et de réconciliation. Les conflits font partie de la vie. Ils ne sont pas forcément évitables. Dans un monde marqué par la chute, c'est parfois normal qu'ils apparaissent. Pour les Barnabas, je vais dire, on a quand même l'impression qu'ils sont tous les deux presque parfaits, pourtant ils ont eu ce conflit. Le livre des Actes nous dit quand même que le dissentiment fut assez vif pour être la cause qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et comme on sait, comment Barnabas a accompagné Paul, a été son père spirituel, on se dit que vraiment là, il y a un conflit attristant, mais quand même qui a dû être violent pour qu'on en arrive là. On peut se réjouir parce qu'à la suite, on verra que Marc a quand même plus tard rejoint l'équipe de Paul et que Paul en parle positivement. Jusqu'ici, j'ai plutôt parlé de conflits, de divisions dans les églises, parce que j'ai été attristé justement en me rendant dans cette église dont j'ai parlé en premier, où j'ai vécu, où j'ai vu cette division qui était là, qui tombait presque comme ça, arrivée de nulle part presque, on avait l'impression. Parce que j'ai visité des gens qui étaient en souffrance, des gens blessés à cause de ce type d'histoire. Quelqu'un disait aussi, mais quel sera l'impact sur les jeunes dans la foi de ce genre d'histoire ? Et lorsque j'étais à la conférence mélanite mondiale, et c'est paru, je pense, dans un des Christ seul, le témoignage de cette jeune fille qui disait que voilà, son père avait été responsable d'église, c'était en Amérique du Sud, je crois, si je me souviens, ou en Asie, bref. En tout cas, voilà, son père était un des responsables de l'église, et pareil, il y avait eu conflit, il était parti, il y avait division, et elle, dans sa foi, ça l'avait vraiment profondément ébranlé, et elle avait mis des années à se reconstruire, pas seulement vis-à-vis des églises, mais spirituellement vis-à-vis de Dieu, et en tant que fille de chrétien engagé, ben, c'est quelque chose qui l'avait profondément blessé, et pendant des années, elle avait rejeté Dieu. Mais mon message ne concerne pas justement que le conflit et les pardons dans l'église, mais conflit entre églises, je veux dire, mais aussi conflit entre frères et sœurs dans l'église, conflit entre amis, conflit dans la famille. Il y a aussi ce qui est plus triste que de voir des parents et des enfants qui ne se parlent plus. J'ai vu un homme de 70 ans un jour pleurer devant moi parce qu'il n'avait pas vu sa fille et ses petits-enfants depuis 20 ans. La raison, il bricolait chez sa fille et puis elle lui a dit, tiens, j'aimerais que tu fasses ce truc un peu comme ça. Et il lui a dit, non, je préfère quand même le faire comme ça. Et elle lui a dit, ouais, mais on est quand même chez moi, donc voilà, on peut faire comme j'ai. Voilà. Il dit, bah, si tu veux, je vais même partir. Et elle lui a dit, bah, t'as qu'à partir. Et pendant 20 ans, ils ne se sont plus parlé. Alors, c'est des gens du Sud, hein, ils ont peut-être le sang plus chaud. Mais voilà, sur une histoire tellement stupide de voir comment est-ce qu'on fixe la lampe, ou je ne sais plus ce qui bricolait, de se dire, pendant 20 ans, ils ne se sont plus parlé. 70 ans, ils pleuraient devant moi, hein, comme un enfant. Ils sont réconciliés, ils sont reséparés par la suite, c'est compliqué, mais c'est terrible de se dire 20 ans sans voir ses petits-enfants, juste pour une dispute de fixer une lampe au mur. Lorsqu'on parle de conflits, on parle souvent aussi de conflits dont on est plutôt nous, les victimes, ceux où j'en veux encore quelqu'un parce qu'il m'a blessé et qui n'est jamais venu me demander pardon. Mais il faut aussi penser à tous ces conflits où moi-même, j'ai été l'offenseur, où j'ai jamais vraiment reconnu mes torts, où j'ai jamais eu quelqu'un qui, où j'ai jamais eu vraiment de demande de pardon. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Comme je l'ai dit, j'ai passé 10 ans dans un groupe de quartier à en parler. Donc, la différence entre le pardon, la réconciliation, l'oubli, comment déposer un fardeau devant Dieu quand c'est compliqué de pardonner, comment pardonner à ceux qui ne reconnaissent pas leurs offenses, est-ce qu'il faut le faire, les non-chrétiens et le pardon. Il y a deux très bons livres à ce sujet, hein, si vous voulez faire le faire en quartier aussi. Donc il y a le pardon et l'oubli de Jacques Buchholz, avec même un petit canevas d'études en groupe. Il y a l'article de Linda Hoyer sur le pardon dans un livre. Et puis il y a le livre qui est sorti aussi sur les Amish, hein, quand la grâce transcende la tragédie, les Amish et le pardon. Donc il y a vraiment des très bonnes choses pour vous aider à réfléchir. Juste un élément quand même, pardonner à quelqu'un, comme j'ai déjà dit, ça ne veut pas dire que ce qu'elle a fait n'est pas grave. Joseph, lorsqu'il pardonne, il ne dit pas que, en définitive, voilà, c'est sympa ce que ses frères lui ont fait. Ni même que ça a plus affecté les relations. Ce que la personne m'a fait est grave. Il s'est passé quelque chose, mais je décide que c'est plus une dette entre moi et la personne. Et l'image de la dette est vraiment celle que le Nouveau Testament utilise pour parler de la question de la blessure et du pardon. Et la dette du serviteur existait vraiment. Hein. Il avait vraiment 1 million de pièces d'argent à rembourser. C'est pas de dire non, en définitive, je me suis rendu compte qu'il y a une erreur de compte et tu me dois rien. Non, il avait vraiment emprunté 1 million de pièces d'argent. Oui, voilà, il devait, d'une façon ou d'une autre, 1 million de pièces. Et le maître décide de dire, je les efface. Mais il ne dit pas qu'en fait, il n'y a jamais eu de dette, il ne s'est jamais rien passé. Lorsque Dieu nous pardonne nos péchés, ça ne signifie pas qu'en définitive, ce n'était pas des péchés. Sinon, Christ ne les aurait pas portés sur la croix. Et surtout, je dirais que par expérience, l'essentiel, ce n'est pas de devenir des techniciens de la science du pardon. On en connaît peut-être des techniciens de ce genre qui peuvent tout expliquer, tout, etc. Mais être plutôt des personnes qui savent reconnaître leurs torts, laisser de côté leur orgueil et demander pardon. Avoir aussi peut-être assez de sagesse pour laisser de côté notre fierté et pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Dans le sermon sur la montagne, Jésus situe ça dans le contexte du culte. Lorsque vous êtes debout, faisant vos prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, etc. Est-ce que vous êtes debout en prière? Est-ce qu'il suffit de rester assis, comme ça on n'a pas à pardonner? Mais lorsque Jésus dit ces paroles, il se situe, c'est vrai, dans le contexte de l'ancienne alliance, où ça peut déjà paraître incongru de venir devant Dieu, alors qu'il y a des questions non réglées dans les relations. Mais sur ce situe de la nouvelle alliance, où notre pardon à nous est passé par la mort du Fils de Dieu sur la croix, et pas simplement un trait sur une dette, mais voilà, il a payé lui-même. Est-ce que c'est imaginable de se tenir ainsi devant Dieu, en refusant nous, comme ce serviteur, de pardonner une dette qui paraît bien plus petite, même si pour nous, elle peut paraître importante? Est-ce qu'on ne prononce pas ainsi un jugement contre nous-mêmes? Parfois, lors des réunions de responsables d'église avec des personnes pour régler un conflit et que celles-ci refusent, c'est parfois à la fin, lorsque ces personnes veulent prier, dire le Notre Père ensemble, qu'elles se rendent même compte qu'elles ne peuvent plus dire le Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. On ne peut plus le dire une fois qu'on se rend compte que nous-mêmes, on ne pardonne pas. Et parfois, ça déclenche quelque chose. On se rend compte qu'on ne peut pas rester comme ça et qu'il faut débloquer la situation. Les deux choses qui minent le plus notre vie, que ce soit la vie chrétienne, la vie du couple, la vie de famille, l'église, je pense que ce sont le manque de pardon et le manque de grâce dans les relations. Et les deux d'ailleurs sont fortement liés. J'ai parlé ce matin plutôt du pardon. Sur la grâce, il y a un très très bon livre de Philippe Yancey, Touché par la grâce, qui parle justement de cette grâce, du monde de grâce, de manque de grâce dans le monde, du manque de grâce dans nos cœurs. Et c'est un livre qui vraiment m'a marqué de façon très très forte. Concernant le pardon, pour moi, l'avertissement de Dieu dans le Nouveau Testament est sérieux. Et surtout, la manière dont il a manifesté son amour et son pardon envers nous sont à prendre avec respect. Et notre reconnaissance envers Jésus et son sacrifice consiste à agir comme le serviteur aurait dû agir. C'est ce que souligne la parabole de Jésus. Le serviteur n'a pas compris ce que son maître avait fait et n'en avait aucune reconnaissance. Ce que son maître a fait n'a pas bouleversé sa vie comme elle aurait dû le faire. Pour le serviteur, il a simplement vu un trait d'une gomme sur une ligne comptable. Pour nous, je l'ai dit, il s'agit de se souvenir que c'est le Fils de Dieu qui a donné sa vie pour nous. Et j'espère que la compréhension de son œuvre pour nous puisse bouleverser nos vies et y faire entrer le pardon et la réconciliation. Amen.